France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, vous le savez sans doute, les jurés du prix des Muses France Musique ont attribué en mars leur prix du jury à la correspondance de Ravel, éditée par Manuel Cornero, que j'avais eu le plaisir de recevoir en novembre dernier. Cet imposant travail permet d'approcher Ravel, l'homme et le compositeur au plus près. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer à nouveau Ravel par l'entremise d'un de ses proches, le compositeur et chef d'orchestre Manuel Rosenthal, qui le côtoya dès la fin des années 1920. Recueilli par Marcel Marna, mon invité, le témoignage de Manuel Rosenthal se montre aussi précieux qu'original, car il révèle des pans souvent méconnus du caractère et des goûts de Ravel. Maurice Ravel de Manuel Rosenthal, souvenir recueilli par Marcel Marna, édité par Fario dans la collection Théodore Balmoral. Le début du tombeau de Couperin, le prélude de Maurice Ravel, l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigé par Manuel Rosenthal. Bonjour Marcel Marna.
Bonjour.
On vous doit donc ces propos de Manuel Rosenthal recueillis. En fait, c'est une réédition d'un livre originalement paru en 1995 chez Hazan, qui était devenu introuvable et qui reparaît donc aujourd'hui chez Fario dans cette collection Théodore Balmoral, avec davantage de notes et puis également l'autobiographie de Ravel et puis une préface de votre plume. Alors, rappelez-nous, Marcel Marna, vous qui avez bien connu Manuel Rosenthal et bien connu également cette maison, puisque vous avez été un des responsables des programmes de France Musique entre 1978 et 1992. Comment vous avez rencontré Manuel Rosenthal ?
Oh, ça s'est fait sans qu'on y fasse attention plusieurs fois contre Manuel Rosenthal qui était sollicité dans le monde entier en tant que chef d'orchestre, oui. Passé par Paris. Il avait sans doute par amitié l'habitude de faire un petit tour à Radio France et occasionnellement il donnait un concert. Et donc j'avais rencontré Manuel Rosenthal avec croisé comme ça entre deux portes, avec infiniment de respect. Il était toujours habillé d'une manière un peu pittoresque. Je me souviens pas, une fois que je l'ai vu, il avait un pull-over mohair bleu pétrole qui était absolument explosif. Et c'est dire que Manuel Rosenthal ne cherchait pas la frime. Il était comme il était dans son quartier, que je lui ai connu par la suite en allant le fréquenter. La fois où j'ai vraiment fait sa connaissance, c'est évidemment en novembre 86, quand, très tremblant, il faut bien le dire, je lui ai apporté le kilo 100 de mon propre ouvrage sur Ravel.
Chez Fayard, oui.
Chez Fayard, et en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va en penser? Je suis persuadé que Manuel Rosenthal a regardé mon livre avec gentillesse, mais qu'il ne l'a pas lu. pour une raison très simple, c'est qu'il avait tout ça dans la il avait tout ça dans la tête et que j'avais rien à lui apprendre. Simplement, il a vu que peut-être c'était pas trop moche, pas trop entaché d'erreurs et que ça pouvait aller. Le livre est allé dans un placard et très bien comme ça. Mais tout de suite, les premiers rapports, la vastitude des propos de Maurice Ravel, leur imprévu dans tous les domaines, aussi bien politique que sportif que musical évidemment, et la politique de la maison, on fait qu'on a eu des rapports extrêmement passionnants. Ce qui fait que, après cette interview, je dis, écoutez, Manuel Rosenthal, ça serait quand même très bien si on pouvait reprendre un peu tout ça dans une série d'émissions qui, à l'époque, étaient vedettes sur France Musique, c'était les Matins des Musiciens. Mm-hmm. Ce qui fait que, en principe, assez vite, on allait faire 15 heures, c'est-à-dire 5 fois 3 heures d'entretien direct sur tout ce que Manuel Rosenthal pouvait dire de la maison, de l'orchestre, de la façon dont on fonctionnait ici. Le problème, c'est que Rosenthal était appelé dans le monde entier et qu'il était presque inaccessible quand il était à Paris. Ce qui fait que ce projet tout simple a traîné très longtemps et je crois me rappeler que ce beau projet a fait quand même un Matin des Musiciens qui est paru, qui est passé sur les antennes seulement en la semaine de Noël 87. Mmh. Ce qui finalement était très bien parce que ça avait un petit côté solennel. Or, Rosenthal ne l'était pas du tout. Et ça redonnait vie à toute une période où on était un peu guindé.
Et alors, ce livre d'entretien, c'est autre chose, alors, qui est paru, donc, originalement, je l'ai dit, chez Hazan, en 1995.
Alors, bon, à l'occasion de tout ce que Manuel Rosenthal m'avait raconté à droite et à gauche, en dehors de l'émission, je lui ai dit, je ne vais pas insister, mais il faudrait quand même, ça serait dommage d'en rester là. Vous avez tellement de souvenirs sur les choses les plus imprévues, sur la dictature de Batista, sur des présidents américains, sur même la règle d'Angleterre. Ce qui fait que ça serait bien de rassembler tout ça en une bonne fois. Et puis le sujet était tellement vaste, lui était tellement absent, que finalement on a resserré un peu le projet d'année en année, jusque dans ces années 90, 12, 13, 80, le livre était sorti en 95, sur lequel on a décidé de se serrer sur Ravel, parce que moi j'hésitais à demander à Rosenthal ses souvenirs sur Ravel, pour une raison très simple, c'est que la plupart des gens qui venaient le voir, c'était le fonds de commerce de Manuel Rosenthal. Thank you.
Stéphane Lemelin interprétait un des 6 caprices de Manuel Rosenthal. Hommage à Debussy, une œuvre de 1926 et l'époque à laquelle le jeune Manuel Rosenthal, qui avait une vingtaine d'années, rencontre Maurice Ravel, Marcel Marna. Il faut rappeler Manuel Rosenthal, né en 1904 et mort en 2003. Quand il rencontre Ravel, c'est pour apprendre la composition en fait, parce qu'on a l'image de Rosenthal chef d'orchestre, mais il était également compositeur, même si on connaît aujourd'hui bien mal sa musique.
C'est assez confus. Il était également dans une classe de direction d'orchestre, et c'est Engelbrecht, du grand familier de Debussy, qui animait l'espèce de concours, le cours qu'il y avait à ce moment-là. Et passant la baguette à Rosenthal pour voir ce qu'il allait faire, au bout de quelques minutes, il lui a dit, écoutez, gardez-la, vous êtes fait pour faire ça. Et alors, on entend un peu interloqué, il dit, mais maître, comment ça se fait? Si, je sens que vous avez l'orchestre en main, comme ça, naturellement. Mm-hmm. Et c'est une chose assez rare. Il faut développer ce don que vous avez de mettre les musiciens dans un mouvement d'ensemble.
Collectif,
qui correspond à votre approche à vous. Et c'est comme ça que Rosenthal a démarré comme chef d'orchestre, d'abord timidement, comme assistant de Désiré Émile Engelbrecht. Je cite ses prénoms avec quelques ironies, puisqu'il voulait absolument qu'on les cache.
Alors, qu'est-ce qu'il allait apprendre chez Ravel? Il allait apprendre comme la composition, parce qu'on apprend à lire ce livre que lui soumettait comme des exercices,
Ravel,
des fugues, des choses comme
de Ravel,
ça.
C'est assez beaucoup dire, parce que Ravel ne voulait pas d'élèves. Mm-hmm. Alors il a vu qu'il avait là à faire, en regardant son premier devoir, il lui a dit, écoutez, c'est très bien, très très bien même. Mais alors voilà, il faut que maintenant vous appreniez la musique. Ce qui n'était pas très encourageant. Et alors il l'a redonné, il a refilé la patate chaude à un de ses amis, un peu oublié maintenant, qui s'appelait Huré. Mmh. Huré qui était un professeur éminent, et qui a donc pris Ravel en main. L'a fait travailler ce que Ravel considérait comme manquant dans son premier approche. Et Ravel revenait voir, Rosenthal revenait voir Ravel à Montfort-l'Amaury, c'était pas au même endroit, et en lui disant voilà où j'en suis. Et Ravel corrigeait pieusement, sévèrement, tout ce qui avait été donc remanié et réélaboré de cette façon-là.
Oui, parce qu'à l'époque, Manuel Rosenthal avait déjà quand même composé, il faisait quand même jouer sa musique, et même Ravel, on l'apprend, soutenait la musique de Rosenthal, il l'appréciait quand même.
Absolument, parce qu'elle était très, très à part de ce qui se faisait à l'époque. C'était une musique très souvent d'inspiration, même si elle n'était pas déclarée d'inspiration religieuse. Mm-hmm. Manuel Rosenthal était très pieux. Et il s'attaquait volontiers à des textes bibliques, notamment les psaumes, auxquels il donnait un accent tout à fait farouche, l'accent biblique véritable, qui était très 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 frappant. C'était tout à fait en dehors de ce qu'on attendait. Mm-hmm. Et ça, bien sûr, ça n'a pu qu'encourager Maurice Ravel à pousser Manuel Rosenthal dans le domaine de la composition. Le problème, c'est que Rosenthal s'est très vite imposé comme chef d'orchestre et on l'a réclamé beaucoup, pour beaucoup de prestations. Et alors il a dit, il n'y a qu'une façon de montrer quelque chose de qui échappe à la routine, disons, c'est de prospecter des compositeurs contemporains nouveaux, pas encore joués.
C'est ça,
oui. Et tout de suite, Manuel Rosenthal a fait des concerts de musique archi-contemporaine. Et beaucoup, beaucoup de compositeurs français et étrangers lui doivent une première audition.
Ce qui tranche en fait avec l'image que l'on a de Manuel Rosenthal, en tout cas compositeur, parce qu'on retient à tort évidemment Gaieté lyrique, et puis qui est un arrangement donc de pages d'Offenbach, et puis quelques-unes de ses œuvres comme La Poule Noire, Rayon de Soierie ou Les Chansons de Monsieur Bleu.
Alors il y a ça.
C'est de la musique légère.
Il y a ça qui est admirable, d'ailleurs, c'est le côté, j'en ai encore rien dit, le côté extraordinairement vivant de Manuel Rosenthal. Moi, j'ai connu, il avait bien connu, il allait atteindre 90 ans, c'est quand même un âge tout à fait respectable. Il était la vivacité même, l'éclat, un goût du du paradoxe, enfin, une vivacité d'esprit, une énergie en un mot, absolument extraordinaire.
Moi qui ai eu la chance de le rencontrer aussi, je peux en témoigner qu'effectivement il avait un esprit toujours très vif, il aimait beaucoup rire.
Il était très vivant,
très malicieux.
Alors il avait ses opinions politiques, il était plutôt à gauche, même tout à fait
assez
à gauche.
Tranché, ouais.
Il avait ses bêtes noires, et bon, je ne sais pas si on doit le redire, enfin il détestait Chirac, et il se passait peu de jours où Rosenthal, à partir d'un certain moment, me téléphonait le matin en me disant « Ah, vous avez vu ce Chirac, il a encore fait je ne sais quel... vous imaginerez les mots employés. » Et c'était tellement touchant et tellement... Pour moi, c'était complètement confusionnant de voir cet homme de 80 ans d'une telle expérience mondiale lire Le Canard enchaîné et m'en lire les passages qui lui paraissaient riches d'avenir.
Alors justement, auprès de Ravel, Rosenthal nous fait découvrir une personnalité qu'on présente toujours, vous le mettez dans le livre, tellement réservée, entre guillemets, qui en fait était, qui aimait un langage, qui avait qui n'était pas du tout puritain, pas du tout quinteux, est-il écrit dans le livre.
Justement, Maurice Ravel était tombé dans les mains d'une bande de... Comment dire, de musicologue rassis, enfin sérieux, calme, et qui ont donné lui une image totalement fausse. Alors, je ne sais pas si son prénom, son nom se profile à l'horizon, mais enfin, très longtemps, il a été coiffé par Roland Manuel. Ravel s'intéressait pas à ce qu'on disait de lui. Il disait, la seule chose qui compte chez moi, c'est ma musique. Vous jouez ma musique, j'espère que vous la jouerez bien. Si vous la jouez bien, on saura ce qu'elle veut dire. Tout le reste, c'est du blablabla. Alors, comme c'était facile, et Ravel s'est prêté au jeu, Ravel a très vite, de peur sans doute d'être envahi par des quantités de visiteurs plus ou moins importuns, s'est composé un personnage assez pète sec, assez froid, assez désinvolte, assez lointain, finalement, de son interlocuteur, qui retranscrit par les écrits qui ont été produits à cette époque-là, ont redonné de Ravel une image que personnellement je considère comme complètement fausse, et qu'elle soit fausse et pas grave en soi, simplement qu'elle ne correspond plus du tout à sa musique.
Thank you.
Un extrait de L'heure espagnole de Maurice Ravel avec Jory Bouet dans le rôle de Concepcion, l'orchestre national dirigé par Manuel Rosenthal. C'était un concert au théâtre des Champs-Élysées le 28 décembre 1944. Marcel Marnat en parlait du caractère de Ravel et d'espèce de façade qu'il avait. Vous avez parlé de Petsec. Quand on écoute cette musique, quand même, on imagine que c'est un compositeur qui a beaucoup d'humour. Toute cette heure espagnole est truffée de sous-entendus, de double sens. C'est irrésistible, quand même, cette œuvre.
Il s'en plaignait pas, il considérait que ça faisait partie d'un jeu, et puis il a toujours considéré que c'était sa musique qu'il fallait écouter. Et quand on a appris que Ravel faisait une petite opéra sur l'heure espagnole de Franz Noën, on s'est récréé en disant, bon, enfin, ce texte de boulevard avec des tas d'équivoques qu'on ne comprend plus maintenant, mais qui sont, mais tissé d'équivoques sexuels à faire rougir en corps de garde, ça passait vraiment pour presque injurieux par rapport à la dignité que supposait le fait d'être un grand compositeur français. Et Ravel, pas du tout, a insisté, a assemblé autour de ce texte, malicieux comme tout, un orchestre gigantesque, très difficile à mettre au point, qui demande des de raffinement, etc. Et c'est précisément cette espèce de jonction entre, j'ose pas dire le trivial, mais presque, et l'extrême raffinement que toute la saveur de l'œuvre réapparaît. Bizarrement, Boulez, qui a joué ça au moins une fois à Pleyel, avait très bien compris ça, avait fait une soirée absolument enchanteresse, drôle comme tout le monde était mort de rire, tout le monde est sorti de Pleyel, mais avec, vous savez, quand les gens, tout le monde a le sourire, tout le monde est aux anges. Eh bien, ça, c'est rare. Bon, ça, c'était le but de Ravel. Dire, bon, je fais tout ce que vous voulez, je vous fais sans doute peut-être un jour je ferai une symphonie pyramidale, il l'a pas fait, mais enfin, mais je veux faire ça aussi, parce que ça fait partie de ma nature. Et dans ces rapports familiers, Ravel aimait plaisanter, aimait mettre des mots d'argot, lisez sa correspondance qui vient d'être éditée.
Oui, justement, on en voit plein, oui.
Vous en avez parlé. Oui. C'est plein de tournures argotiques dont on sort encore maintenant, d'ailleurs, qui sont tout à fait, on dirait presque malvenues, tellement elles sont incongrues à cet endroit-là. Mais c'était Ravel qui donnait du relief à son discours.
Un extrait du Jardin féerique, le final de Ma mère loi de Maurice Ravel, l'orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris, dirigé par Manuel Rosenthal à la fin des années 1950. Marcel Marnat, dans ses souvenirs que vous avez recueillis auprès de Manuel Rosenthal, mais souvenirs donc de Maurice Ravel, compositeur donc qu'il a fréquenté à partir de la fin des années 20, 25, 26, on va dire, On apprend beaucoup de choses sur Ravel, qui lui dit à un moment, c'est emmerdant d'écrire de la musique, que c'est un travail vraiment difficile, dur. À un moment, Rosenthal raconte comment Ravel s'est mis en colère en déchirant une fugue qu'il avait faite, et il jette ça au feu, et Rosenthal en était absolument... Elle était très en colère et à la fois très choquée par la réaction de Ravel. On n'imagine pas trop ça non plus de la part de quelqu'un comme Ravel, qu'on imagine assez calme et assez posé.
Alors ça, c'est très important, parce que Ravel... Il y avait une espèce de divinité, c'était la musique. Allez savoir ce que c'est exactement. Et alors, quand même un élève très cher, comme l'a été Manuel Rosenthal, lui apporte un devoir qui outrepasse un peu le but qui était attendu, à savoir faire une belle fugue bien régulière, bien où on se retrouve et où voilà. Ravel s'emporte parce qu'il dit, vous n'êtes pas là pour faire une belle fugue, vous êtes là pour faire une fugue tout court. Vous ferez des belles fugues plus tard quand vous ferez votre œuvre. Ça, c'est pas une œuvre, c'est un devoir. Et alors, Rosenthal concluait en disant, Ravel pédagogue était un véritable pion. Il pinaillait sur le moindre accident qu'il peut y avoir, etc. Et ça, tous ces soi-disant familiers autres que Rosenthal, justement, ont voulu cavalarder ça parce que c'était presque de la violence. Et Manuel Rosenthal dit qu'un jour, il a quitté Montfort-l'Amaury avec un devoir déchiré, en larmes,
sous une
pluie battante, etc. C'était presque dramatique, tellement Ravel, au nom de la musique, pouvait devenir... Je ne dirais pas féroce, c'était pas sa nature, mais devenir vraiment
inflexible.
Le prof incontournable, il fallait que ça soit comme ça et pas autrement. Et très vite, bien sûr, toutes ces choses-là se sont amenuisées, et Dieu merci, Rosenthal a retiré de Ravel énormément de leçons, à commencer pour faire sa propre musique, qui n'a aucun rapport avec celle de son maître.
Exactement. Ben merci beaucoup Marcel Marna pour mieux connaître la personnalité et les goûts, donc je l'ai dit, les goûts musicaux notamment de Maurice Ravel. Je vous invite à lire donc Manuel Rosenthal, Maurice Ravel, souvenirs recueillis par Marcel Marna, réédité très joliment chez Fario. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.